Bonjour, je suis Florence Sedaminou Muratet et bienvenue sur le balado Jason Pédagogie Numérique. Cet épisode correspond à la deuxième partie de notre micro-série sur le thème de la réalité virtuelle en enseignement supérieur. Dans la partie 1, j'avais rencontré Dominique Carmichael, qui était conseiller pédagogique au cégep de Champlain-Lennoxville. Dans cet épisode, je jase avec Julien Marceau, technopédagogue et enseignant en éducation spécialisée au collège Mérici. Julien est un passionné des usages de la réalité virtuelle qui répond aux besoins pédagogiques. Nous abordons dans cette conversation ses débuts dans le monde des technologies immersives et comment se lancer dans un projet en réalité virtuelle. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Alors peut-être que les auditeurs ils vont sentir ma voix un peu nasale, mais c'est ça l'époque. On va faire avec. Peut-être que ça me donne une voix suave, je sais pas, mais bon. On s'est rencontrés, il me semble, lors d'une rencontre reptique. J'étais conseiller technopédagogique à Mérici. Je pense qu'on s'est abordé tout de suite en parlant de réalité virtuelle. Puis c'est comme ça qu'on a commencé, mais je vais te laisser te présenter, que je pose ma question rituelle, puis ça va te permettre de te présenter. Alors c'est ça, je suis conseillère en pédagogie numérique, puis il y a eu un parcours dans ma vie qui m'a menée en fait à m'intéresser à ça, notamment un parcours d'enseignante. Toi, qu'est-ce qui t'a menée à te jeter pieds joints dans la réalité virtuelle?
Ok. Premièrement, salut. Merci beaucoup, Florence, de ton invitation. Ça me flatte beaucoup que t'aies pensé à moi. Moi, c'est Julien Marceau. J'ai plusieurs chapeaux. Je suis enseignant au collège Mérici. J'ai déjà été conseiller pédagogique, mais je suis retourné sur mon siège d'enseignant justement pour pouvoir continuer à travailler sur des projets de développement pédagogique ancrés là dans la pratique. Donc, je suis enseignant au collège Mérici en éducation spécialisée. Je suis aussi concepteur, ça c'est mon job de jour, mon job de soir c'est concepteur pédagogique, puis je me spécialise justement en intégration pédagogique de la réalité virtuelle. Pour répondre à ta deuxième question, qu'est-ce qui m'a amené là? Ça a l'air bizarre là, ce que je veux dire, mais c'est le festival d'été. C'est le festival d'été qui m'a amené là. En fait, il y a à peu près, je pense, il y a 7-8 ans, je suis allé au festival d'été avec ma conjointe. On est en train d'écouter un spectacle et il y a une espèce de container Bell qui est là et il parle d'expérience en réalité virtuelle. Venez, c'est la promo pour la fibre, etc. J'arrive là, puis en fait, ça fonctionne avec des téléphones cellulaires qui mettent dans des Google Cardboard. Bon, t'as une expérience à travers un dédale. Je trouve que c'est vraiment super intéressant. Puis moi, à l'époque, je donne un cours, je le donne encore, ça s'appelle Processus clinique. Puis ce cours-là, c'est un cours où on travaille beaucoup sur l'observation pour les éducateurs spécialisés. Et j'avais toujours rencontré la limite de je suis en classe puis je devrais les amener à observer des événements, des comportements qui se passent dans la réalité sur le terrain. Et je suis pas capable de prendre mes 35 étudiants parce qu'on a des groupes de 35 puis les amener, puis même si je les amenais observer dans un milieu, je suis pas certain que j'aurais vraiment une réalité aussi là. Puis il faudrait que je les amène à chaque, là tu sais, ça a fait comme une addition dans ma tête. Je me dis, si je pouvais moi utiliser ça pour tenter de les immerger dans une situation puis de pouvoir le faire la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4, là ça serait vraiment le fun. Donc c'est ça qui tranquillement m'est amené. Fait que là j'ai commencé à me renseigner, qu'est-ce que ça prend comme matériel, c'est-tu coûteux. Ça a donné que le collège avait acheté une caméra 360 pour le département des communications qui s'en était servi pour faire une genre de visite virtuelle du collège, mais c'est tout. Alors elle prenait la poussière dans un placard, fait que j'ai demandé à l'utiliser. J'ai commencé à concevoir mes capsules en vidéo 360, puis à les utiliser dans mes cours. Puis ça a fait boule de neige avec une autre collègue qui est Isabelle Dosti, qui elle aussi avait le même problème au niveau pédagogique. Fait que là, on a commencé à faire d'autres scénarios. Puis c'est ça qui m'a amené tranquillement à la réalité virtuelle. Ça a été la porte d'entrée. Par la suite, j'ai continué à creuser. Je me suis intéressé à la réalité virtuelle par ordinateur, la réalité augmentée. Et puis voir comment ça s'appliquait dans l'enseignement. C'est ça le parcours, le festival d'été.
Ouais, festival d'été, il y a toujours un déclencheur, il y a toujours quelque chose qui fait que, mais tu sais, j'avoue qu'effectivement, ce que tu nous expliques, t'es dans la peau d'un enseignant qui fait la corrélation entre l'expérience du festival d'été, et se dit, ah, ça peut peut-être m'aider à développer l'expérience d'apprentissage de mes étudiants. Comment ça s'est passé au tout début, le soutien au niveau de ton établissement? Tu sais, parce qu'il y a toujours cette difficulté en tant qu'enseignant, t'as des idées, il y a des choses qui se passent, puis souvent, j'entends autour de moi, tu sais, des enseignants qui, des fois, sont un peu pas démotivés, mais tu sais, ça demande d'avoir une certaine énergie à se faire entourer, en fait, ou accompagner par son établissement. Comment ça s'est passé pour toi?
Tu sais, je te ramène en 2015, la réalité virtuelle, c'est vraiment à ce moment-là encore pour les geeks, ça prend coup d'investissement, des casques avec des fils, des gros ordinateurs. Pour le commun des mortels, c'est pas une technologie qui est nécessairement très accessible. Et c'est soit pour les gamers, soit pour les grosses entreprises, mais on voit pas encore non plus beaucoup d'applications de ça. On commence à voir un peu la réalité augmentée des applications avec des grosses... premièrement parce que c'est mobile, puis on voit, mettons, Pokémon Go qui a fait un... c'était un peu plus... Les gens étaient capables de figurer un peu plus à comment ça reçoit, mais encore là, on vient pas à penser que c'est à la portée de tout le monde de créer ce genre d'activité-là. Fait que moi, à l'époque, le soutien que j'ai, il vient de Yannick Morissette, qui est au département des communications à Mérici, puis qui me dit « Hey, tu cherches une caméra 360? J'en ai une. Je peux te la prêter. » Le soutien, il vient de là. Après ça, il y a personne qui savait, à part Yannick, il y a personne qui savait c'était quoi la vidéo 360, qui savait comment ça marchait. Les communications avaient acheté, parce qu'ils avaient créé cette fameuse visite virtuelle, ils avaient acheté des Google Cardboard aux couleurs du collège. C'était pour distribuer dans un événement de communication. Puis j'avais vu qu'il en restait quand même pas mal. Fait que tu vois, j'étais allé chercher le département des communications, leur dire est-ce que je peux en avoir une quinzaine? Puis nous les ont donnés. Fait que tu sais, ça a été pas mal comme ça. Au niveau du matériel, c'est le soutien que j'ai eu. Puis tu sais, en même temps, vu que je savais pas trop où je m'en allais, j'avais pas nécessairement confiance déjà à ce que ça allait donner comme résultat, fait que je peux comprendre que au départ là, j'étais un peu en exploration là-dessus. Puis ça ressemble pas mal à ça, tu sais, tout ce qui est création du matériel, aller chercher les acteurs, ça s'est fait avec les moyens du bord. J'ai engagé comme actrice Isabelle, qui est une excellente actrice qui fait plein de vidéos dans ses cours. On a monté un scénario ensemble, on l'a utilisé à la fois dans son cours puis dans le mien. Le montage, j'ai appris à le faire avec mon ordinateur personnel, puis un peu en essai-erreur. C'est comme ça techniquement que ça a commencé. Puis au niveau du soutien, ben il y avait juste du soutien matériel, c'est tout ce que j'avais besoin au départ. Par la suite, ben là il est arrivé cette demande parce que ce que j'avais produit comme matériel, je l'ai présenté à Bruno Polybert de l'Université de Montréal, qui m'a dit « Hey, en psychoéducation, ils essayent de faire ça. Faudrait que je te mette en lien avec eux. » Bruno m'a mis en lien avec les besoins en fait de l'école de psychoéducation, avec Steve Geoffrion, François Charpentier, puis en fait eux avaient un plan en relation d'aide. Ils ont vu ce que j'ai fait, puis là ils m'ont dit "Hey, nous on veut exactement faire ça. Comment on fait pour travailler ensemble?" Donc à ce moment-là, ce que le collège a fait, c'est qu'ils m'ont libéré pour que j'aille les aider à partir le projet. Ça, c'est un petit peu j'avais développé l'expérience, je dirais pas l'expertise à ce moment-là, mais l'expérience de comment ça marche, assez pour aller sur ce projet-là, les aider à partir comme il faut. Avec Marie-André Dion-Gauvin de la POP, on avait développé même des outils de scénarisation pédagogique, parce qu'au travers de ma pratique, je m'étais quand même doté de... J'avais construit des outils, on avait fusionné nos outils ensemble, donc on avait vraiment du matériel. Ça, c'est là, le collège, en me libérant du temps, m'a permis de développer quand même, d'appliquer les outils que j'avais créés sur un projet. Puis, on a développé des capsules avec l'Université de Montréal. Donc, on peut les utiliser, nous autres, à Mérici maintenant. L'Université de Montréal les utilise en psychoéducation. C'est des programmes qui sont connexes. Tu sais, à quelque part, là, je te dirais que c'est vraiment un amalgame de quand j'avais besoin des techniques, ils m'ont aidé. Quand j'avais besoin de temps, ils m'en ont libéré un petit peu. Maintenant qu'on est plus dans une période où là, faudrait qu'on applique puis qu'on développe davantage, on se ramasse à la croisée des chemins comme j'ai l'impression à peu près toutes les établissements. C'est qu'il faut commencer à investir dans du matériel. Est-ce qu'on a un retour sur l'investissement? Là, je te dirais que les appuis sont moins là, mais on peut comprendre qu'en contexte de pandémie, il y avait d'autres choix aussi à faire.
Ouais, c'est ça qui est intéressant parce que tu sais, je me rends compte effectivement que cette démarche est part d'un enseignant qui se dit il y a quelque chose à faire, puis qui pousse. Il y a eu plusieurs aides au moment où t'en as eu besoin. Tu sais, tu parles de matériel, tu parles du fait d'avoir un petit peu de disponibilité pour développer le projet avec l'université. En termes de transférabilité, tu sais, sur la question de la transférabilité et sur la question de où en est l'outil à Mérissi, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui a permis d'être, tu sais, tu parlais d'Isabelle Dosti, est-ce que c'est quelque chose qui a été contagieux, tu sais, ça a permis à d'autres enseignants du domaine de pouvoir s'approprier ces technologies. Comment tu vois un peu le déroulé, tout ça, peut-être l'avenir de ce projet que tu as commencé à développer et les impacts dans le réseau collégial?
Tu vois, à une échelle, à Mérissi, juste à cette échelle-là, l'initiative de partir avec la vidéo 360, j'ai commencé à travailler avec Isabelle Dosti, puis elle, ça l'a éveillé à tout ce qui était la scénarisation dynamique, une scénarisation d'activités plus interactives. Donc, on filmait des activités, on met des choix, on met l'individu devant des décisions, dépendamment de la décision qu'il prend. Puis ça, c'est des modèles que j'avais développé avec l'Université Laval, justement, puis desquels, en travaillant avec Isabelle, elle a pu s'inspirer, puis après ça, elle a développé elle-même son propre matériel. Fait, tu vois, je travaille pas en solo, jamais, enfin, en tout cas, c'est super rare. Fait que, tu sais, le travail avec Isabelle s'est fait comme ça, puis dans la même année, j'avais une collègue qui avait, elle, un cours en intervention aussi, et là, elle voulait que ces étudiants puissent être mis devant des situations dans lesquelles il faut qu'ils choisissent une technique d'intervention en fonction de ce qu'ils viennent d'observer, puis qu'ils puissent ensuite de ça voir l'impact de leur intervention. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est regroupés, elle et moi, et Joanne Carrier, son nom, est enseignante aussi à Mérissi. Puis, on a fait un prototype d'une expérience en vidéo 360, mais interactive. Puis, on l'a testé auprès des étudiants, et ça a très bien fonctionné. Donc là, on a décidé d'aller déposer le projet au CCDMD, puis le projet a été retenu, puis présentement, on est en train de développer là, du contenu en vidéo 360 interactive, là, en réalité virtuelle, pour le CCDMD dans le cadre de la formation en éducation spécialisée. Puis elle, ce que ça a fait, c'est que, ben, au départ, elle a dit, ben, voici ce que je voudrais, voici, elle a fait comme un espèce de scénario des simulations. On a rentré ça, moi, après ça, je récupère ça, j'en fais un scénario dynamique. Je vais venir faire tout ce qui est prévoir les interactions, s'assurer que le scénario coïncide, parce que quand tu fais de la scénarisation à embranchement, ben faut que tu t'assures que tout soit cohérent, sinon l'utilisateur va perdre le fil. On est allé filmer ça dans une école secondaire. On a ensuite de ça, j'ai rentré ça dans Moodle. On a fait on a tout programmé, puis ça l'utilise maintenant dans son cours, puis tu sais, ça lui a donné confiance pour faire le projet avec le CCDM. Fait que ça, on sait, tu vois déjà que là, il y a, donc à mon échelle, je vais te le dire comme ça, là, à mon échelle, à Mérissi, le fait d'avoir collaboré, puis d'être allé peut-être à la rencontre de mes collègues qui, je savais, avaient exactement le même problème pédagogique que moi, ça fait en sorte que ben la solution technique, là, elle leur a apparu je te dirais bénéfiques, puis qui se sont mis là-dedans. Premier rempart qu'on va rencontrer, par exemple, c'est l'aspect du financement. Puis ça fait, tu sais, je te parle du projet avec le CCDMD, on est vraiment content que le CCDMD, je pense qu'ils ont vu le potentiel du projet, puis ils sont vraiment des bons partenaires là-dedans. Le projet avec l'Université de Montréal, par exemple, a été financé par l'Université de Montréal, par le Centre de pédagogie universitaire. On en est à notre troisième volet avec ce projet-là. À chaque fois, ils ont eu du financement. Et ça aide beaucoup. Moi, dans mon milieu, là, on a eu des choix à faire. On est petit collège, là. On n'a pas des fonds illimités. Donc, je te dirais que là, l'enjeu, des fois, on a le projet, on a l'idée, mais ça nous prend le financement. Puis le financement, il sert à quoi? Ça majoritairement à dégager les profs pour faire la scénarisation pédagogique. Je te dirais que c'est l'ingrédient numéro un. Fait que moi, je te disais, j'ai fait la rencontre de la vidéo 360 de la réalité virtuelle dans une activité de loisir.
Oui,
je suis allé au festival d'été, c'était ludique. Maintenant, ce que j'ai vu, c'est le potentiel du matériel pour l'intégrer pédagogiquement. Mais honnêtement, si jamais tu vas juste filmer quelque chose puis que tu l'attaches pas à un scénario pédagogique, ça peut être en 360 ou en réalité virtuelle la meilleure expérience du monde. Ça se peut que ça reste un jeu vidéo ou une expérience de visite, Mais t'as pas de rétention sur les apprentissages, t'as pas d'impact sur les apprentissages. Fait que tu passes à côté de ton coup. Fait que oui, t'as un wow techno. Fait que tu sais, ça se travaille. Puis c'est là souvent que le premier rempart se fait. Et c'est là qu'on perd de l'adhésion des profs. Parce que, ben, ouais, ça, c'est beaucoup de travail. Est-ce que je vais avoir une libération pour ça? Non? OK, ben non, tant pis, je vais rester avec
Oui, c'est sûr. Tu sais, de parler des financements, tu sais, on va en arriver à la question du matériel. Moi, souvent, ce qui revient, tu sais, de collègues, d'enseignants du réseau collégial, c'est « Ah, ce serait tellement de fun, mais en même temps, on n'a pas le matériel ou on n'a pas la possibilité. » Tu sais, comme toi, tu parles du festival d'été pour la découverte du 360. Ouais. On n'a pas encore de lieu, de hub, de pôle où dans l'enceinte même de l'établissement, on va être amené à faire l'expérience d'eux. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail qui est mené par des organismes comme Éductive ou par d'autres organismes du réseau collégial pour faire en sorte qu'il y ait déjà une exploration. Puis on reste à ce stade d'exploration. On va faire des présentations, tu sais, ça va être le fun. Les enfants, ils vont se dire, ah, c'est cool, tu sais, on a vraiment envie de le faire. Puis après, pouf, tu sais, c'est comme un soufflé de fromage. Là, ça, on passe à autre chose parce que dans la vie au quotidien, tu sais, on a des réalités aussi, des évaluations, les réalités de faire avancer nos étudiants, etc. Il y a l'exemple, en fait, que tu nous donnes et que tu décris. Puis c'est super intéressant parce qu'on comprend aussi avec tout ce mécanisme comment ça a pu impacter autour de toi des collègues, du fait qu'il y a quand même une collaboration universitaire, collégiale. Comment, en termes de matériel, on pourrait ne pas passer par « faut acheter le matériel pour trouver la plus-value pédagogique », mais comment justement passer par ton passage à toi, c'est-à-dire qu'on peut avoir une réalité où on peut être bloqué d'un point de vue des apprentissages. Penser à la réalité virtuelle, puis peut-être que c'est pas la réalité virtuelle et peut-être que c'est la vidéo, je sais pas, c'est H5P ou tu vois ce que je veux dire. Comment on peut continuer à faire en sorte que les enseignants puissent s'ouvrir à ce type de technologie, mais tout en ayant la possibilité d'explorer. On sait qu'il y a le CCTT SISMI de Sainte-Foy, tu sais, qui permettait à l'époque de faire quelques explorations à la demande.
Ouais, d'emprunter du matériel, ouais.
D'emprunter du matériel, etc. Mais aujourd'hui, comment faire?
Moi, je te dirais, j'ai pas eu de financement. Je pense qu'on les a maintenant. On a un ou peut-être deux casques Oculus à Mérissy, mais je sais pas à quel point ils sont utilisés. En fait, je pense qu'il faut faire attention. Il y a comme deux éléments là-dedans qui vont ensemble, mais qui, selon moi, des fois sont interprétés à l'envers. Tu me parlais du matériel. Je te dirais que ce qui doit mener à ce genre de technologie, c'est la réflexion pédagogique. Donc, à quelque part, le matériel devrait pas arriver dans les premières questions. Devrait arriver dans, une fois que j'ai bien saisi mon problème pédagogique, que je sais ce que je veux avoir comme expérience d'apprentissage. Maintenant, c'est quelles sont les stratégies qui vont m'amener. Puis si c'est la réalité virtuelle ou une technologie XR, peut-être ça va être la réalité augmentée. Tu sais, moi, j'ai travaillé aussi avec la réalité augmentée, avec des cours de biologie, de physique. J'ai accompagné des enseignants en biologie puis en physique. Puis tu sais, en physique, il y en a qui me disaient, ben désolé, le matériel me convient pas, je vais continuer à fonctionner avec d'autres matériels, d'autres activités d'apprentissage. D'autres en biologie qui disaient, hey, c'est super parce que moi j'ai des vieux schémas de cellules, puis là ben il y a des applications maintenant, tu peux rentrer dans la cellule, tu peux la modifier, tu peux. Fait que, tu sais, je pense que le problème pédagogique devrait être à la base, puis ensuite de ça on devrait voir quelles sont les stratégies ou les moyens qu'on doit utiliser, puis après ça aller voir le matériel qui est nécessaire en fonction. Puis ça, c'est indépendant du matériel. Ça, c'est de l'expertise humaine. Puis j'ai l'impression que ce qui va faire en sorte que les profs vont vouloir expérimenter, que les activités d'apprentissage vont se créer, ben c'est tout l'accompagnement que, par exemple, les conseillers pédagogiques peuvent faire. Moi, je suis une bibitte un peu bizarre parce que, ben bizarre, je suis pas tout seul dans ce cas-là, mais tu sais, j'ai vu que j'ai commencé par créer mon matériel tout seul. Maintenant, je suis capable de prendre le projet de A et de l'amener jusqu'à Z. Donc, je suis capable de faire la scénarisation, aller soit le filmer, soit le créer en réalité virtuelle, programmer tout ça, puis ensuite de ça le livrer pour que ça marche sur un casque ou dans sur un appareil mobile. Puis souvent, quand je suis appelé à collaborer, que ce soit avec l'Université de Montréal ou avec d'autres personnes ou d'autres établissements avec qui je collabore en ce moment, c'est souvent toute l'expérience, pas TI qui viennent chercher. C'est plus l'expérience d'intégration pédagogique, puis tu sais, les erreurs à pas refaire. Parce que quand tu commences, tu fais plein d'erreurs, puis après ça, tu apprends. Fait que toute cette expérience-là, je pense que c'est ça qui est à développer avant même de vouloir aller dans la réalité virtuelle. Parce que, notamment, Isabelle Dosti, dont je parlais tout à l'heure, au début, elle voulait faire de la vidéo 360 beaucoup. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte, tu sais, c'est beaucoup de travail, peut-être qu'on serait pas obligé. Puis là, maintenant, on passe avec des modules H5P, puis ça fait en sorte qu'elle est full autonome parce qu'elle est capable de les créer par elle-même, puis elle fait ses vidéos par elle-même, puis that's it. Fait que, et puis c'est beaucoup, ça demande zéro matériel. Ses étudiants le suivent, ils font ça sur un ordinateur, puis c'est correct. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin de la case de réalité virtuelle, mais on a des activités qui ont un potentiel puis une portée au niveau de l'apprentissage qui sont énormes. Après ça, quand on a cette expertise-là, ben là, on peut se permettre de faire des choix matériels qui sont peut-être plus intelligents et qui sont plus abordables. Il y a des cégeps qui m'ont abordé sur cette question-là, puis eux autres voulaient s'acheter full de casques, etc. Puis là, tu leur mets à te parler, OK, ben t'achètes des Oculus, tu sais, faut que tu saches que ben ça vient avec un compte Facebook. Quoique en ce moment, de moins en moins, là, il commence à y avoir des applications qui nous permettent de nous détacher de ça. Mais ça va venir.
L'année prochaine, c'est fini avec Meta.
Ouais, c'est ça. On a hâte de voir ça. Mais tu sais, veux pas, c'est quand même, on a les labs iPad, on sait c'est quoi l'entretien, qu'est-ce que ça demande. On sait aussi que ben il y a des fois tout l'aspect technologique est des fois plus difficile, puis dépendamment de l'utilisation qu'ils veulent en faire, ils se rendent compte que c'est des capsules en vidéo 360, que la majorité de leurs étudiants ont des cellulaires, que de toute façon ils voudraient passer par les cellulaires, ce serait bien plus pratique. Fait qu'on y va pas avec des casques, on y va avec des visionneuses comme le Merge, ouais. Le casque Merge, qui fait très bien le travail, qui se désinfecte super bien, qui coûte, je pense, 40$, ouais. Qui est incassable ou presque, à moins que tu veuilles vraiment le casser, et qui fait pour n'importe quel téléphone, et qui fonctionne très bien pour de la vidéo 360, même de la vidéo 360 qui pourrait être interactive à certains égards. Fait que là, d'un seul coup, ben ils peuvent développer leur projet, ils ont plus peur d'aller chercher beaucoup d'argent dans leur puis de tout donner. Tu sais, c'est tannant quand t'as un budget puis que la majorité de ton budget s'en va en équipement. Finalement, tu dois couper dans ton expertise. Là, ils viennent switcher. Puis après ça, ben pour ce qui est des choix de matériel, ben si vraiment tu penses, c'est comme par exemple l'École nationale d'aérotechnique, là, eux autres, je travaille aussi avec une compagnie qui s'appelle OVA. On a un produit qui s'appelle Stellarix, qui est justement fait pour que n'importe qui, non programmeur, non professionnel, soit capable de créer des simulations en réalité virtuelle. Bon, ben, on développe des choses pour des clients, puis là, ben, là, c'est vraiment de la réalité virtuelle que ça leur prend. Mm-hmm. Bon, ben, là, à ce moment-là, oui, tu vas commencer à former ton monde pour prendre soin des casques, mais c'est parce que là, tu le sais que c'est ça que ça te prend. Fait que là, c'est là que tu vas aller chercher ce matériel-là.
C'est ça. Je suis curieuse parce que tu parlais d'erreurs. Tu sais, tu as parlé, par exemple, d'Isabelle Dosti, ce n'était pas une erreur du tout, mais tu sais, qui s'est rendu compte que ce n'était pas le 360, mais plus le H5P. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'erreur que tu as faite où tu as dû faire marche arrière? Est-ce que ça a été remis en cause, cette utilisation de la réalité virtuelle dans tes développements de scénarios pour l'éducation spécialisée? Est-ce que tu en as fait des grosses erreurs?
Des grosses erreurs à date, je te dirais, je vais toucher du bois parce que je pense pas. Tu sais, des grosses erreurs qu'il a fallu vraiment que je back beaucoup. Non. Pour l'instant, je te dis, je touche du bois là, puis je suis quand même resté dans une. Je pense que j'ai jamais pris de projet non plus, que ça soit pour le collège ou même pour moi-même, de projets que j'étais pas capable de faire. Par contre, tu fais beaucoup d'apprentissage quand tu, par exemple, récemment, je fonctionnais avec une nouvelle application pour un projet que je fais avec l'Université Laval. On travaille avec Sphere, qui est une plateforme pour créer des simulations interactives en vidéo 360. Ils font aussi la réalité virtuelle, mais là, on a choisi la solution de vidéo 360. Et puis, j'ai une expérience complète là qui a planté. Incapable de la récupérer, je leur envoie, ils essayent de rattraper le projet, mais ça remarche plus. Fait que je perds des heures de travail, tout ça pour me rendre compte que finalement, tu sais, c'est les formats d'exportation des vidéos, que là, je me dis, oh boy, OK, c'était pas trop lourd. Fait que ça a fait bugger la plate. Fait que là, je recommence. Fait que, tu sais, je vais perdre du temps. C'est ça, les erreurs que je vais commettre. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure. Ouais, puis c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure, c'est de la, tu sais, ça là, si tu donnes ça à un prof qui commence en réalité virtuelle, qui fait tout ça tout seul, puis que ça plante, t'as 99,9% des chances qu'ils disent, hey, tu sais, tu quoi, c'est fini, je touche plus.
Ah ouais, à non, ça. Mais moi aussi, je jetterai les choses.
C'est ça. Moi, dans mon profil, c'est pas comme ça. C'est plus, ok, il y a eu un problème, je vais aller creuser, c'est quoi, puis je vais l'apprendre. Donc à partir de là. Toute cette expérience-là va me servir. Puis moi, quand je vais accompagner du monde, ben je vais le savoir d'avance, puis je le commettrai pas. Puis on va avoir plus de chances que ces projets-là arrive à terme dans les temps, soit fonctionnel, puis que le prof soit content. La grosse erreur, je pense qu'il faut pas commettre, c'est de se dire ah, tout revient sur mes épaules, puis j'ai tout à faire. On commence à être je peux pas dire combien on est, mais on commence à être quelques-uns là, à savoir comment ça marche, à savoir comment l'implanter en pédagogie, à avoir des expériences, des produits livrés, etc. Et ça, je pense que cette expérience-là, puis cette expertise qui est en train de se créer, faut aller la chercher. Puis tu me connais, tu sais, moi je partage volontiers mon information puis mon les connaissances que j'ai pu accumuler. Je pense que c'est par là qu'on va commencer. Fait que cette expertise-là va nous amener à faire de meilleurs choix sur le plan matériel, puis à faire moins d'erreurs. T'sais, je pense à, t'sais, à Alexandre Chenette, je pense au récit là, qui a travaillé aussi avec ça. Il y a Alexandra Couté. T'sais, on est plusieurs quand même à avoir
toujours
une certaine
plus ouvert pour le partage et la collaboration. C'est ça qui est exact.
Manipuler ça, fait que je pense que ça va donner un coup de main. Et t'sais, dans les grosses erreurs à date, je te dirais ouais les formats d'exportation. Puis tu sais au départ des erreurs niaiseuses du genre la capsule commence direct, fait que là je laisse pas le temps. Je pense pas que l'utilisateur va avoir besoin de prendre son cellulaire, le mettre dans la visionneuse. Fait que là, il est jamais capable d'avoir le début de la capsule parce qu'il le met tout de suite dans sa visionneuse. Puis là, il perd le 2, 3, 4, 5, 6 secondes que ça lui prend de la scène. Il est pas capable de retourner. Fait que là, maintenant, quand je fais la programmation, ben, je le travaille différemment.
Et ça, après, tu le testes avec les utilisateurs, tu sais, un peu pour observer, tu vois, ce que ça fait, puis partir après aussi de leurs besoins pour peaufiner la scénarisation. C'est quelque chose qui se fait assez facilement?
Ben, c'est nécessaire. Tu sais, souvent, la première fois, on a fait un bêta, puis on l'a tout de suite testé avec les élèves. Puis là, après ça, ben, les étudiants, je les rencontre, je leur demande qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce qui était difficile. Puis fait que, tu sais, ça, c'est venu là. Hey, on n'avait pas le temps de mettre le téléphone, ça partait tout de suite. Bon, ben, c'est une chose. D'autres qui aimaient pas ça, la visionneuse. Fait que, tu sais, maintenant, par exemple, quand je fais de la vidéo 360, ben là, tu peux le mettre en format sur un iPad ou sur un ordinateur. On fait des tests aussi pour quand on a fait le projet avec Johan, le prototype qu'on a déposé au CCDMD, on a fait un genre de sondage à la fin d'intérêt, mais aussi de fonctionnalité. Tu sais, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas bien fonctionné. Fait que là, on récupère de l'information. Fait que tu sais, grâce à ça, on va itérer. Là. Fait qu'on on sait, par exemple, que cette vu qu'on n'avait pas accès à une plateforme de simulation une plateforme hauteur qui nous permet de faire des simulations en vidéo 360 interactive, on est passé, j'ai tweaké un peu un module de leçon de Moodle, puis on le savait qu'au niveau de l'utilisation, c'était pas fluide. Mais en même temps, tu sais, ça nous permet aussi de savoir si tu apprécies, puis est-ce qu'on atteint notre objectif. Puis dans ce cas-là, on s'est aligné complètement, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était qu'ils voient l'impact d'une intervention sur un client. Puis ça, ils l'ont tous dit, tu sais, on leur a pas mis les mots dans la bouche, là. On a reçu tous les commentaires, je te dirais, plus que les trois quarts, c'était hey, c'était le fun, on voyait ce que ça donnait d'intervenir, puis on était capable d'ajuster nos interventions en fonction d'un vrai client, entre guillemets, mais
ouais, c'est ça.
Vraie réaction. Puis ça, c'est quelque chose que on pouvait pas faire avant en classe, même si on avait des acteurs, même si c'est plus difficile.
Alors, on arrive bien. Ah, ça passe trop vite. J'avais des tonnes de questions à te poser, notamment par rapport, tu sais, aux plateformes libres où on pourrait commencer à se lancer. Mais je vais poser la question plutôt de si tu as un conseil à donner à un enseignant, tu sais, qui trouve vraiment le fun, tu vois, qui nous écoute, puis qui se dit, mais j'aimerais bien me lancer, mais je sais pas comment débuter, je sais pas. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un enseignant qui se dirait, il y a peut-être quelque chose à faire du côté du développement des apprentissages dans ma discipline, puis je veux commencer à explorer. Ce serait quoi les premières étapes d'exploration, mais vraiment pour quelqu'un qui est novice?
Souvent, quand je me fais aborder, c'est arrivé plusieurs fois là, depuis le début de l'automne, par des gens qui voulaient essayer, ils voyaient un potentiel, qui voulaient savoir comment moi je m'y étais pris. ProfWeb avait fait un article en septembre, là, puis je pense que ça a attiré un peu d'attention. Fait, j'ai reçu des demandes, puis majoritairement du temps c'était la même chose. C'est fais ton scénario pédagogique. C'est dans ta tête, c'est quoi les compétences que tu veux atteindre, comment tu comptes t'y prendre. Ça c'est la première des choses qu'il faut que tu fasses. Puis si ton idée est déjà arrêtée, puis que ben, à partir de là, c'est d'aller à la rencontre de personnes qui l'ont déjà appliqué pour justement leur demander comment ils s'y sont pris, les erreurs à pas commettre, le matériel utilisé, etc. c'est souvent ça que je vais te donner comme premier conseil à quelqu'un qui commence. Fais ton scénario. Il faut que tu sois certain que c'est vraiment cette solution-là qui est la plus pertinente pour toi. Ou vraiment quelque chose que tu veux essayer, mais qui a une pertinence pédagogique, pour éviter que ça ait pas l'effet escompté, puis que tu passes beaucoup de temps à scénariser, à faire de la cohérence, à travailler sur quelque chose, à dépenser de l'argent ou du temps pour quelque chose qui aura pas le résultat escompté. Mais si tu vois vraiment qu'il y a une plus-value pédagogique, à partir de là, ben ouais, c'est de contacter des personnes qui ont déjà essayé ça. Et puis ensuite de ça, ben de regarder, ok, ben est-ce que je peux avoir accès à une caméra 360? Moi, avant tout, je l'avais quand même essayé dans ma vie personnelle, dans le sens où quand j'ai emprunté la caméra, je suis allé l'essayer chez nous, j'ai regardé comment ça fonctionnait. Puis personnellement, je suis persévérant dans ce genre de problème-là. Ok, fait que tu sais, d'avoir des problèmes techniques, ça me dérange pas.
Okay.
Parce que je vais aller creuser, etc. Si c'est quelque chose que toi qui te dérange, mais que tu veux aller dans cette technologie-là, ben t'es mieux de te mettre en équipe avec quelqu'un que ça dérange pas, puis qui va être résilient face à ce genre de difficulté-là, parce que tu vas en rencontrer, c'est sûr. Des problèmes de caméra, des problèmes d'export, des bonnes pratiques, c'est de toujours doubler tes scènes, etc. Ça, c'est des affaires que il faut que tu fasses. Puis si jamais tu le fais pas, puis t'as un problème, ben faut que tu recommences. Fait que ça. Aller chercher quelqu'un qui a une expertise, puis un collègue qui va nous accompagner quand il va falloir se mettre les mains dans la graisse, puis qui a pas peur de se salir un petit peu. Ça, je te dirais que c'est ton équipe qui peut te permettre de commencer. Puis c'est ça qu'on a fait avec, je parle notamment avec Steve Geoffrion. Steve était, lui, tu vois, c'est celui qui avait l'idée pédagogique, qui avait vraiment, là, il savait, il était certain que que ça va une plus-value pédagogique sur ses activités, sur son apprentissage à l'université en psychoéducation. Il en était persuadé. Donc là, il a dit, OK, parfait, moi, je veux aller par là. Il est allé chercher de l'expertise. Il est venu me chercher, mais il y a pris aussi François Charpentier du CPU. On a monté le projet, ce qui fait en sorte qu'on a gagné beaucoup de temps dans la production, dans la réalisation, dans la post-production et aussi toute la programmation. Et ça fait des super bonnes activités d'apprentissage. S'il avait voulu faire ça tout seul, je pense pas que ça aurait donné ce résultat-là. Si j'avais voulu faire ça tout seul, ça aurait pas donné ce résultat-là. Si le CPU avait voulu faire ça tout seul, ça marche pas. Mm-hmm. Tu sais, à la TELUC, je pense, ils ont un système là, avec des médiatiseurs. Puis j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qu'on est en train de vivre. Là, on essaye d'aller chercher un maximum le potentiel des technologies, mais la majorité des enseignants, puis c'est correct. Ils ont ils ont l'expertise de leur contenu.
C'est ça.
Et après ça, l'expertise de la technologie, comment l'impliquer, puis l'expertise pédagogique en arrière de construction complète d'un scénario pédagogique, bah des fois ça demande justement une équipe en arrière, une équipe de médiatiseurs, une équipe de technopédagogues. Puis ben quand on travaille ensemble, c'est là qu'on va plus loin. Tout seul on va plus vite, puis ensemble on va plus loin.
Mais c'est ça. Tu sais, par exemple, je vais dire, je suis plus créative, je vais pouvoir scénariser, développer mon contenu. Mais par exemple, ça va bloquer au niveau du technique. C'est-à-dire que tout à l'heure je te disais que j'allais jeter l'éponge, mais à partir d'une, deux, trois fois, je vais aller creuser. Mais si je m'accompagne pas d'un collègue qui est lui plus axé sur le technique, c'est sûr que j'avancerai pas dans les explorations ou le développement de contenu. Là, je vais te donner une petite boule de cristal. Ouais. mais surtout, c'est vraiment pour dire, ce serait quoi l'idéal en éducation, dans le réseau collégial, ce serait quoi l'idéal? Parce qu'on entend de plus en plus de start-up, de petites moyennes entreprises qui ont la technologie, qui développent des choses, puis du point de vue de l'enseignant ou de l'éducateur, ça va être, c'est vide de sens. C'est-à-dire que c'est super, on parlait de l'effet waouh, ça montre des choses, etc. Mais il manque de contenu. Puis c'est un peu ce qui se passe avec les contenus Oculus. Voilà, ça commence à se développer, mais ça arrive pas à sortir de l'événementiel, du loisir. Ce qui manque foncièrement, c'est les développeurs de contenu. Puis dans l'éducation, ce qui manque foncièrement, c'est des enseignants qui connaissent leurs étudiants, qui connaissent en fait les approches en fait pédagogiques à développer pour le développement ou l'apprentissage de leurs étudiants. Comment on peut combiner les deux? Ce serait quoi l'idéal d'avoir dans un cégep si on veut aller explorer tout ce type de technologie?
pour ce qui est de l'idéal, je vais donner mon idéal là, parce que je peux pas parler pour les autres. Mais
oui, c'est ton idéal, c'est ta boule de cristal.
Si jamais, j'ai un exemple. Quand j'ai été conseiller pédagogique à Mérissy, on avait l'implantation de Moodle nous autres. Pourtant Moodle, ça faisait des années que ça existait, mais on n'avait pas de LMS. Fait que puis on parle, c'était pas si loin là, c'était 2018-2019 quand donc tu vois. Mais on implantait Moodle.
Tout juste avant le.
Ouais, c'est ça. On implantait notre première LMS. On n'en avait pas nécessairement eu besoin, mais là ça commençait. On commençait à avoir des cours à l'extérieur qui suivaient à distance, etc. Donc quand on l'a implanté, c'était un petit peu chaque prof qui voulait l'essayer l'essayait, mais tu comprends que c'est la même affaire qu'avec n'importe quelle technologie, c'est-à-dire que ben si t'es pas débrouillard, tu vas vite, surtout que nous en plus là Moodle c'est vraiment la version de base là, donc si t'as pas d'accompagnement, faut vraiment que t'aimes ça pour pouvoir te mettre le nez dedans, puis vivre des réussites. Fait que quand je suis arrivé conseiller pédagogique, j'ai eu la chance de pouvoir former une équipe Moodle. Fait que là on avait quelqu'un qui mettait ton cours beau, un gars qui avait Kevin qui était qui est encore une maîtrise en art là, fait que lui il est vraiment, écoute, au niveau du design, il mettait sa boue, puis il était relié à l'équipe TI. On avait Marc-André qui était lui plus au niveau de toute la programmation de Moodle, etc. Donc t'assurer que tes étudiants rentrent, que t'as pas de bug, si t'en as, tu lui écris, il va te déboguer ça. Il va cloner ton Moodle, il va te créer ta page. T'auras pas besoin de passer par 8 étapes pour créer ta page. Il va te la créer, ça va arriver par courriel, tu vas te loguer, tout va fonctionner. Puis moi, comme CP, ben, j'accompagnais le prof à faire des contenus. Donc, déposer ses contenus, ses notes de cours, créer des activités, utiliser la bonne application. T'avais le prof qui était expert de contenu. Moi, j'étais un concepteur pédagogique, donc j'étais capable de venir prendre son contenu puis lui montrer des moyens de le rendre plus dynamique ou de le rendre efficace. Donc, faire toute la conception du scénario. Puis, pour mettre sabot, on avait quelqu'un qui était au design. Puis, pour rendre ça fonctionnel, on avait quelqu'un au TI. Ouais. Donc, là, ça devient super intéressant parce que chacun a un rôle. Puis, le prof, il a l'impression qu'il est accompagné à la fois dans sa structure pédagogique, parce qu'il faut quand même qu'il change certaines affaires. D'un seul coup, il faut que ses tests, ils les mettent peut-être davantage, qu'ils créent des activités plus autonomes. Il faut qu'ils fassent des vidéos éducatives. Fait que comment ça marche? Comment je m'y prends? Comment je fais pour que ma leçon se tienne si j'ai une partie en classe, une partie à distance, par exemple? Si je veux que mon étudiant fasse certains apprentissages en dehors, comment je fais pour les traquer? Donc, tu sais, tout ça, là, moi, je m'occupais de cette conception-là. Puis de l'autre bord, ben, au niveau du TI, on avait une équipe. Donc, tu vois, pour moi, l'idéal, il est là, c'est d'avoir plusieurs expertises au sein d'une équipe qui viennent soutenir le prof. Puis, je pense que c'est là que tout le monde joue son rôle. Parce que encore là, comme je te dis, moi, j'aime ça, la techno, Moodle, je l'avais testé avant même qu'on l'implante à Mérissy avec ma collègue qui est CP à Mérissy en ce moment, Isabelle. On avait déjà commencé à utiliser Moodle avant. Donc, tu sais, on le savait que ça s'en venait, on avait le goût d'essayer ça. Mais la majorité de mes collègues avaient pas nécessairement envie d'y passer ou avaient se faire accompagner. Fait que, tu sais, si tu veux avoir un accompagnement, c'est pas juste de donner de l'argent en disant, tiens, je te libère, organise-toi. Faut aussi que je te mette des ressources. Puis là, ben, dans les ressources, on sait que, notamment au sein de la, quand on veut utiliser les XR, ben là, on va avoir besoin d'un concepteur pédagogique qui sait de quoi on parle quand on fait de l'immersive learning. Et ça court pas les rues. Ça va nous prendre quelqu'un qui, techniquement, est capable de programmer les activités utilisant certaines plateformes. Puis, ben, après ça, ça va te prendre aussi ton gars de TI qui est capable de faire l'étudiant y accède à ça, le prof y accède à ça, puis que ça fonctionne dans l'environnement, dans l'écosystème numérique du collège. Tu parlais des startups tout à l'heure ou des compagnies qui créent des plateformes. C'est un service qui est offert. Le problème qu'on a en ce moment, c'est que c'est quand même des plateformes dont les licences peuvent être assez dispendieuse. Puis, je pense pas que les directions sont encore vraiment convaincues du retour sur investissement. Donc, c'est ça aussi, c'est un enjeu.
Ça pourrait être une gang d'enseignants ou de cégep qui se mettent ensemble pour développer une plateforme open, tu sais, libre, en accès libre, par exemple.
Ça pourrait être ça. Ça pourrait être des cégep puis des startups qui travaillent ensemble pour que, ben, si ça, parce qu'il y a toujours un coût d'entretien, tu sais, faut faire attention à ça, là. Quand tu crées quelque chose aussi, après ça, faut penser à, pas non seulement au déploiement, mais aussi à l'entretien. Mais est-ce qu'on pourrait s'associer? En éducation, s'associer aux entreprises, là, c'est
ouais,
trop fort.
C'est compliqué. Quand on dit ouais, ça, c'est ça.
C'est pas toujours bien vu, mais en même temps.
Ouais, il y a des CCTT.
C'est ça, les CCTT le font, puis on a quand même le ruissellement, là, de mm-hmm. ou en tout cas les retombées de ces associations-là sont quand même bonnes. Et tu sais, je te dirais que ça pourrait être le fun de s'associer à des compagnies qui développent ça, des compagnies québécoises, puis de voir est-ce que eux, ben ça leur permet d'avoir, de développer des cas d'utilisation de leur logiciel, puis en même temps, ben nous autres, ça nous permet de développer du matériel pédagogique. Et encore là, tout le monde jouerait son rôle.
Oui.
Le contenu est développé par des experts de contenu, puis la technologie est développée par des experts en technologie, mais qui travaillent ensemble. Ça, selon moi, là, c'est le best. Si t'es pas capable de recréer cette équipe-là à l'intérieur de ton cégep, ben essaye d'aller en chercher une dans une start-up,
entreprise. Ouais. Donc en soi, en fait, l'idéal ce serait vraiment d'avoir une sorte de pôle dans tous les établissements où le concepteur pédagogique il commence à être incontournable. Tu sais, il y a et ça se voyait déjà à l'étranger. Moi, quand j'étais à Hong Kong, j'enseignais à Hong Kong, c'était formidable parce qu'en fait, il y avait un concepteur pédagogique par département. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui était organisé pour fournir les outils à l'enseignant, puis laisser l'enseignant dans sa place d'expert de contenu, c'est sans se prendre la tête à savoir ou c'est aller creuser technologiquement comment il pourrait justement développer son contenu. Donc, c'est super pour la boule de cristal. On arrive à la fin de notre rencontre, mais moi, je veux en savoir un peu plus sur tes projets du moment. Qu'est-ce qui va arriver? J'ai vu que tu as fait quelque chose récemment. Je pense que j'ai vu ça là sur les réseaux sociaux, la promotion, il me semble, d'un livre en éducation spécialisée.
Ah, ouais.
Tu sais, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça super chouette. Tu sais, j'étais vraiment contente pour toi.
Ouais, ben en fait, ça c'est un projet qui est arrivé à destination. Puis là, on lançait ça cet automne. En fait, les éditions Fides publiait un livre qui s'appelle La personne avant tout. Et c'est écrit par Guy Lemire, qui est quand même une sommité là, en éducation spécialisée. Il a contribué au programme d'éducation spécialisée tel qu'on le connaît maintenant. Il a été un acteur assez important là et influent dans le développement du programme de formation, mais aussi dans tout ce qui est la crédibilité, rendre plus crédible, on va dire comme ça, la notoriété en fait du travail d'éducateur spécialisé. Puis lui a été engagé par l'édition Fides pour faire un ouvrage de référence pour la formation et qui touche vraiment là beaucoup de pans de la formation. C'est un outil selon moi que tous les éducateurs spécialisés en formation devraient avoir en leur main. Et moi ils m'ont demandé de faire la relecture des chapitres parce que je donnais le cours. Puis finalement je pense qu'ils ont aimé mes commentaires, ils m'ont gardé tout le long du livre. On a développé une belle relation de travail avec Guy. J'ai pu avoir, je pense, une bonne collaboration avec. Puis j'ai fait tout ce qui était la relecture, une genre de révision pédagogique des contenus. Puis ensuite de ça, ils m'ont engagé pour faire la conception du matériel pédagogique. Puis on lançait ça, mais c'était dans les 2-3 dernières années qu'on a fait ça. Ça a été un travail énorme de Guy, là. Puis j'étais très chanceux d'y participer. Sur le plan plus personnel, écoute, la table à dessin est bien garnie. Je suis retourné comme enseignant depuis 2019. Fait que là, tu sais, avec la COVID, bon, il y a eu beaucoup de matériel à créer en ligne. Je donne des nouveaux cours aussi, donc je suis pas mal dans la préparation de cours. Sur un autre plan, ben tu sais, je continue de collaborer avec comme concepteur pédagogique spécialisé en apprentissage immersif. Donc la collaboration avec l'Université de Montréal, Steve Geoffrion, l'équipe de l'école de psychoéducation, ça continue. On a déjà deux volets une séquence de 7 simulations en relation d'aide. On en a tourné une autre à l'hiver dernier qui était pour une activité d'évaluation. Puis on en a une autre là, qui s'en vient à l'hiver prochain. Mm-hmm. Donc ça, c'est quand même très plaisant. Là, on a commencé à travailler là-dessus. Je travaille aussi avec Bruno Pilote de l'Université Laval en soins infirmiers. Ça, c'est super intéressant aussi. Donc c'est même chose, on utilise les technologies immersives pour Le concept est intéressant parce que l'objectif est de préparer les personnes qui sont en formation en soins infirmiers à certaines situations qui vivront pas nécessairement dans leur stage, puis qui doivent être capables de gérer si jamais ça leur arrive en stage. Donc, une façon de les préparer, on travaille avec le centre de simulation de l'Université Laval, Apprentis. Donc, ça c'est vraiment intéressant. Là, je finis les prototypes en ce moment, là, donc ça devrait être lancé. Et au travers de ça, ben, tu sais, je fais le projet du CCDMD pour ce qui est de la production des capsules. Donc, on finissait la scénarisation à l'automne. Là, on en est, tu vois, à choisir les lieux de tournage, à sélectionner les équipes de production, puis on devrait s'en aller en production. Et au travers de ça, ben moi, je suis concepteur pédagogique aussi chez OVA, et ça, je te dirais que c'est vraiment quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Ça me permet, premièrement, l'application Stellarix, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, là, je veux pas faire trop de pub, mais c'est, selon moi, tu sais, c'est si tu veux t'en aller en réalité virtuelle, tu sais pas comment ça marche, probablement une des applications les plus intuitives pour créer des simulations en réalité virtuelle. On demande pas de programmation, etc. Fait que, moi, mon travail en ce moment chez eux, c'est de rendre ça encore plus facile pour l'utilisateur.
Ouais, intuitif.
Puis intuitif. Donc, je produis beaucoup de matériel. On a une masterclass qui va être disponible pour tout le monde. Ça, c'est super intéressant. J'apprends énormément sur l'utilisation de la réalité virtuelle et je le mets en application. Et ça, là, ça me permet vraiment... T'sais, je te disais tout à l'heure, là, d'apprendre là, au travers. Ouais. Puis, fait que ça, c'est les projets. Puis voilà.
En tout cas, merci beaucoup, Julien. J'ai l'impression, avec tous les projets que tu as énumérés, je me dis, mais il doit être surhumain, je sais pas ce qu'il fait ou s'il se multiplie ou quoi, mais il arrive à s'organiser, donc c'est top. Merci beaucoup.
Merci énormément de l'invitation. C'est vraiment comme l'impression que tu sais, la discussion pédagogique, elle doit avoir lieu, mais ça nous prend des places pour des lieux là, pouvoir la générer, cette discussion-là. Et je trouve que le moyen que vous prenez là, puis que tu prends avec à travers les podcasts là, j'ai vu aussi le line-up des invités. Je pense que ça va permettre cette discussion pédagogique là, puis tu sais, de contribuer au réseau. Les Reptiques font déjà un excellent travail là-dedans. Alors,
mais merci beaucoup.
Je dis que je t'occupais, mais je sais que tu fournes pas toi non plus.
Ben merci beaucoup. Puis on continue. Allez, salut Julien.
Parfait. Bye.